Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophone pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Les séjours d'auto-isolement sont maintenant permis à Norman Wells et à Fort Simpson. D'autres assouplissements des règles sanitaires des territoires du Nord-Ouest pourraient être annoncés ce printemps. L'Assemblée législative des TNO se concentrait cette semaine sur les enjeux liés au racisme systémique, une réalité bien présente au territoire, selon la première ministre. Après avoir enquêté sur le climat de travail au bureau de la gouverneure générale Julie Payette, la société indépendante Quintet se penchera sur les allégations contre le greffier de l'Assemblée législative des TNO, Tim Mercer. Le prix Inspiration Arctique a remis plus de 3 millions de dollars à 7 organismes du Nord le 19 février. Nelly Guidici nous en parle. Le vote électronique aurait sa place aux prochaines élections des territoires du Nord-Ouest, mais n'aurait pas encore sa place officielle dans la loi, selon un comité de l'Assemblée. À quand les concerts au territoire du Nord-Ouest? Une pétition circule en ce moment pour permettre aux musiciens de se produire dans les salles du territoire. Baptiste Foisy nous en parle. Et finalement, après un dur hiver, c'est enfin l'heure de sortir. Denis Laure nous présente l'agenda très chargé du territoire pour mars et avril. Il est maintenant possible, après avoir traversé la frontière des territoires du Nord-Ouest, de compléter son séjour d'auto-isolement dans les collectivités de Fort Simpson et de Norman Wells. L'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, en a fait l'annonce le 4 mars en conférence de presse. La Dr Camille Candola explique ici que d'un point de vue de réduction des risques, ces collectivités sont maintenant pleinement prêtes à accueillir des personnes provenant de l'extérieur et devant s'auto-isoler. Aux yeux de la santé publique, Fort Simpson et Norman Wells disposent des ressources médicales adéquates pour prendre en charge d'éventuels nouveaux cas de COVID-19. De plus, les résidents de ces collectivités qui désiraient recevoir le vaccin Moderna ont reçu leur deuxième dose cette semaine. On assure également la surveillance des eaux usées à Norman Wells et à Fort Simpson. C'est une méthode qui est jugée très efficace par la santé publique pour détecter la présence du virus dans une collectivité. Ces deux nouveaux centres d'auto-isolement s'ajoutent aux municipalités de Yellowknife, Inuvik, Fort Smith et Hay River. Selon la Dr Candola, cette nouvelle représente une étape de plus vers un éventuel passage à la troisième phase du plan de déconfinement des territoires du Nord-Ouest. Une étape qui inclut plusieurs assouplissements aux règles sanitaires en place.
The time period where I would be considering moving to phase 3 would be later on in the spring, depending on our vaccine uptake and how many people have taken the vaccine that aren't fully immunized, but it will be mid to late April when people would have been receiving the second dose.
La Dr Camille Candola explique ici que ce passage à la troisième phase du plan de déconfinement dépendra notamment des résultats de cette campagne, c'est-à-dire du nombre de personnes qui se seront fait vacciner. Sur ce plan, la Dr Candola se dit confiante que 75 % des adultes des territoires du Nord-Ouest auront été vaccinés d'ici la fin du mois d'avril, comme prévu.
I feel, even with the amount and where we're heading right now, I'm pretty confident that we will be moving into a step-by-step phase we approach in the spring.
Avec le nombre de personnes vaccinées jusqu'à maintenant, dit-elle, je suis assez confiante que nous pourrons progresser étape par étape vers cette troisième phase du plan Emerge Wisely. 44 % des adultes des territoires du Nord-Ouest ont reçu au moins une première dose du vaccin Moderna. La campagne de vaccination s'est élargie cette semaine pour accueillir de nouveaux groupes prioritaires. On apprenait également lors de ce dernier point de presse de la santé publique que les jeunes de moins de 18 ans pourraient être vaccinés et ce, avant la rentrée scolaire de septembre. Une étude clinique serait présentement en cours auprès de 3000 jeunes de 12 à 18 ans pour évaluer l'efficacité et la sécurité du vaccin Moderna pour cette tranche d'âge.
If the data shows that children can be immunized, that it's safe and it's efficacious in our population, then we can immunize them over the summer, and when the next school year starts, they can actually start school fully vaccinated.
L'administratrice en chef de la santé publique des TNO, la Dr Candola, affirme que si les données démontrent que les jeunes peuvent être immunisés de façon sécuritaire et efficace, ils pourraient obtenir leurs deux doses du vaccin Moderna à temps pour la rentrée scolaire de septembre.
Systemic racism is real. It exists in the Northwest Territories and it exists in our government.
Le racisme systémique est bien réel au territoire du Nord-Ouest. C'est avec cette déclaration que la première ministre Caroline Cochrane ouvrait la séance du 3 mars de l'Assemblée législative, spécialement dédiée à la question du racisme systémique.
Some of our institutions, policies and practices continue to disadvantage or discriminate against Black, Indigenous and people of color.
Certaines de nos institutions, de nos politiques et de nos pratiques continuent de désavantager et de discriminer les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur, a ajouté la première ministre. La thématique de la journée aura donné lieu à nombre de requêtes de la part des députés vouées à attaquer les grands enjeux vécus au sein des collectivités des territoires du Nord-Ouest et à revoir les principes qui guident le gouvernement dans ses prises de décision. La période de questions de cette séance se sera conclue par le dépôt d'une motion par la députée de Tebacha, Frida Marcello.
Now, therefore, I move that the Legislative Assembly calls upon the government of the Northwest Territories to review its policies and practices for radical and cultural bias.
La motion déposée par la députée de Tebacha, Frida Marcello, vise donc à ce que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest révise ses politiques et pratiques en matière de préjugés culturels et raciaux, surtout lorsque ces préjugés concernent l'éducation, la santé et les services sociaux, la justice, le logement et l'embauche au sein du gouvernement. Le document a été approuvé par l'ensemble des députés réguliers et entièrement appuyé par le Conseil des ministres, comme l'a déclaré le leader du gouvernement à l'Assemblée, R.J. Simpson.
While there is much work already being done on this, we acknowledge that we have much more to do, both within government and society more broadly, and we're committed to doing that work.
Le leader du gouvernement à l'Assemblée des TNO, R.J. Simpson, indique que, bien que beaucoup de travail ait été accompli en ce sens, le Conseil des ministres reconnaît qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche, tant du côté du gouvernement qu'au sein de notre société, et qu'il s'engage à faire ce travail. La ministre des Finances, Caroline Vazonek, a fait l'annonce d'une campagne contre le racisme en milieu de travail qui prendra place du 16 mars au 21 avril. Cette campagne vise à encourager tous les employés du gouvernement à remettre leurs croyances et leurs attitudes en question face au racisme. La société indépendante Quintet Consulting est bien connue pour avoir récemment enquêté sur le climat de travail jugé toxique au bureau de l'ancienne gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Eh bien, c'est cette même firme qui se penchera dans les prochaines semaines sur les récentes allégations de harcèlement et d'abus de pouvoir à l'endroit du greffier de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, Tim Mercer. Les employés actuels du bureau du greffier ainsi que les anciens employés qui ont travaillé pendant la 19e Assemblée législative auront ainsi l'occasion de parler volontairement aux représentants de la société indépendante. Toutefois, cette évaluation du milieu de travail se limitera aux préoccupations soulevées au bureau du greffier depuis le 1er octobre 2019. Certains plaignants, dont l'employé April Taylor, font état de comportements imposés depuis beaucoup plus longtemps. De son côté, le député de Toonaidé-Willaidé, Steve Norne, a déclaré le 15 février en conférence de presse que M. Mercer imposait un climat de travail marqué par l'abus d'autorité et l'intimidation depuis au moins 14 ans. Le député avait alors réclamé une enquête indépendante.
The occupant of that office has accumulated great power and influence over the years has been used and has used it to bully, demean and terrorize his subordinates and even threaten the well-being of elected members.
Le député de Toonaidé-Willaidé, Steve Norne, déclare que Tim Mercer a accumulé beaucoup de pouvoir au fil des ans, un pouvoir qu'il a employé pour intimider, dégrader et terroriser les personnes qui se trouvent sous son autorité. M. Mercer a pris un congé avec solde le 16 février, au lendemain de ses déclarations. La société Quintet produira un rapport fondé sur une enquête entourant les trois plaintes individuelles émises en février par April Taylor, par Steve Norne, ainsi que par la directrice générale des élections, Nicole Latour. La firme invitera également des employés et anciens employés à témoigner de façon anonyme. Le greffier rejette catégoriquement l'ensemble de ces récentes allégations. Dans une déclaration qu'il aurait transmise aux médias Cabin Radio le 15 février, le greffier pointe une attaque groupée et un cirque médiatique injuste à son endroit. Il se dit persuadé que la vaste majorité des députés et des employés qui travaillent ou qui ont travaillé pour lui ne confirmeraient pas ces allégations. Le prix Inspiration Arctique a remis plus de 3 millions de dollars à 7 organismes du Nord. C'était le 19 février, dans le cadre d'une cérémonie virtuelle. Nelly Guidici est avec nous pour nous en parler. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Nelly, quelles sont les grandes vedettes de ce prix Inspiration Arctique?
Alors, la vedette de ce prix, c'est la Société de musique d'Iqaluit qui a reçu 1 million de dollars pour son projet appelé IMA. En fait, ce projet permet aux enfants et aux jeunes de s'exprimer par la musique et d'avoir accès à une offre plus diversifiée, disons, en matière de cours de violon, de cours de tambour traditionnel, mais aussi avoir accès à des cours de chant traditionnel, de chant de gorge. Avec ce prix, la Société de musique d'Iqaluit va également mettre en place un curriculum d'offres de cours pour les enfants de grade 1, et ces cours seront disponibles après les heures d'école.
Donc, avec un million de dollars, il y a quand même, on peut faire énormément de choses, on se l'imagine. Nelly, d'autres organismes ont été récompensés, certains projets qui visent la souveraineté alimentaire.
Oui, alors il y a deux projets qui visent la souveraineté alimentaire et ils sont basés dans le territoire du Yukon et au Nunavut. Donc leur objectif, c'est d'accroître la sécurité alimentaire tout en faisant la promotion de la souveraineté alimentaire. Alors par exemple, au Yukon, c'est la première nation de Natchongyak Dun qui a reçu un financement de 485 000 dollars pour la transformation d'un bâtiment qui est déjà existant dans leur ferme en une infrastructure de transformation des aliments qui devrait être opérationnelle à l'automne 2021. Ce bâtiment sera destiné à l'abattage, à la transformation des animaux de la ferme, comme les cochons ou les poules, mais également à la préparation et à la découpe de viande qui vient du territoire, comme l'orignal. Le bâtiment pourrait également abriter des ateliers culturels en lien avec le travail de la peau, par exemple. Et il y a un projet similaire au Nunavut, dans le hameau de Taloyoak. Un prix de 451 000 dollars a été remis pour la construction d'un bâtiment de transformation des produits alimentaires traditionnels, qui est de la viande en fait, comme la viande de bœuf musqué, de caribou ou de phoque. Par contre, là-haut, l'infrastructure n'existe pas du tout. Il va falloir construire le bâtiment et l'adapter et surtout l'équiper. Donc, il devrait être opérationnel seulement dans 2 ans. Et si tout se passe bien, il permettra la création d'une dizaine d'emplois.
Parfait. Ça, c'est un peu ce qui se passe chez vous, mais à Yellowknife, il y a aussi des initiatives. Il y a une initiative qui a été récompensée, Nelly.
Oui, alors à Yellowknife, c'est l'atelier communautaire de Yellowknife appelé le Makerspace qui a reçu un financement de 100 000 dollars pour ses programmations artistiques. Donc avec cet argent, un poste rémunéré de coordonnateur de programme artistique à l'intention des jeunes va être créé et ce poste permettra d'apporter plus de choix et plus d'offres en matière de programmes artistiques et d'expression artistique pour les jeunes de la ville.
Parfait. J'entendais des témoignages de jeunes, justement, là, qui disaient qu'ils manquaient de ce genre d'initiative artistique. On a tout ce qu'il faut quand il y a le temps de pratiquer un sport à Yellowknife. Alors, un financement pour les arts, ce sera sans doute très bien accueilli. Nelly Guidici, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Thomas.
Le vote électronique n'est pas encore prêt à avoir sa propre section dans la loi sur les élections et référendums des territoires du Nord-Ouest. C'est ce que conclut un comité de l'Assemblée législative qui a été chargé d'étudier le dernier rapport de la directrice générale des élections des TNO, Nicole Latour. Rappelons que c'était la première fois en 2019 que des électeurs canadiens avaient l'occasion de déposer un vote en ligne dans le cadre d'élections provinciales ou territoriales. Ce comité recommande que la loi soit éventuellement modifiée afin d'exiger l'élaboration de règlements régissant le vote par voie électronique, en établissant, entre autres, des normes de cybersécurité. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement qui encadre le mode de scrutin électronique. Le comité n'écarte pas cette nouvelle méthode comme option de vote par correspondance aux prochaines élections, comme l'explique le président et député de Frame Lake, Kevin O'Reilly.
You know, I think the committee recognizes that it is a valuable way to try to encourage say, our students in particular who are away, or residents who are away for longer periods of time, to continue to participate in elections.
Le président du comité, Kevin O'Reilly, indique que le comité croit que le vote électronique est une excellente façon d'inciter les gens à voter, spécialement les étudiants, lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur du territoire pour une plus longue période de temps. Le rapport suggère toutefois d'attendre que ce type de scrutin ait été éprouvé ailleurs au pays et à travers le monde avant d'inclure officiellement des dispositions sur le vote en ligne à la loi. Cet élément fait partie des 19 recommandations émises par le comité. Selon M. O'Reilly, rien n'indique qu'il y aurait de problèmes particuliers dans le système électoral des territoires du Nord-Ouest.
No, but I think we've got our electoral system in a pretty good place, and we suggested some more, I think, relatively minor tweaks here to make some further improvements. And
le président du comité, Kevin O'Reilly, dit croire que ce comité a proposé des ajustements relativement mineurs, en ajoutant croire que, somme toute, le système électoral des territoires du Nord-Ouest est en bonne posture. Dans son rapport, le comité recommande également de faciliter l'accès à la candidature par l'ajout d'un programme de remboursement des dépenses liées aux campagnes électorales. Ça fera bientôt un an, dans un peu plus d'une semaine, que les premières mesures spéciales pour lutter contre la COVID-19 ont été mises en place au territoire du Nord-Ouest. Depuis le 15 mars 2020, les acteurs de nombreux secteurs ont dû cesser leurs activités ou modifier leurs pratiques. Alors que des assouplissements aux mesures ont été accordés au commerce, au sport ou à certains segments du milieu culturel, le chant demeure toujours une activité prohibée au TNO. Des citoyens réclament du changement. Baptiste Foisy est ici pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Donc Baptiste, en gros, il est interdit de chanter au territoire du Nord-Ouest.
Oui, ben en fait, c'est quelque chose qu'on ignore un peu si on n'est pas dans ce milieu-là, mais effectivement, le chant et l'usage d'instruments à vent demeurent interdits en ce moment au territoire du Nord-Ouest, dans le cadre d'une représentation sur scène, on s'entend, et aussi, il faut que ça soit à l'intérieur là, pour que l'interdiction... Il est quand même possible de chanter à l'extérieur dans certaines circonstances. Il y a des aménagements qui ont été faits. Il y a d'autres types d'événements musicaux, par ailleurs, qui ont pu se produire. Là, vous avez peut-être assisté à des spectacles récemment. Ça se peut jouer de la musique, mais il ne faut pas que ce soit des instruments avant. Il ne faut pas chanter. Une soirée micro-ouvert dans un bar, là...
C'est pas possible, ça.
Non. Et c'est le genre d'événement qu'aimerait pouvoir proposer Patrick Jacobson. Lui-même, c'est un musicien de Yellowknife qui a une petite entreprise spécialisée particulièrement dans les open mic, les micro-ouverts. Il a lancé une pétition cette semaine qui, au moment là, d'enregistrer ce segment, a été signée par plus de 170 personnes. Et il demande à ce qu'on permette certains spectacles de chant ou d'instruments à vent avec la mise en place là, de certaines mesures d'atténuation de risque qu'il détaille. On va aller l'écouter.
I looked up the ideas sort of based on what the suggestions were coming from the Chief Public Health Officer's mm-hmm. office. So when they were saying that they needed barricades or masks or something like that, I was like, well, I mean, you can't really sing if you're wearing a mask. You definitely can't play a saxophone wearing a mask.
Yeah.
I mean, there's a lot of instruments that you just, it's impossible, right? So I was trying to find a way, well, there's got to be another solution around this that's still safe. And did some Google searching found there's these plexiglass shields that you can buy that actually just attach right onto a microphone stand.
Le musicien Patrick Jacobson explique ici qu'avoir tâché de voir comment les lignes directrices pour les événements publics pouvaient être appliquées aux spectacles de chant et d'instruments à vent. Il note que de chanter ou de jouer du saxophone, par exemple, n'est pas praticable en portant un masque. On peut comprendre. Il raconte avoir trouvé, en fouillant sur Internet, des écrans de plexiglas spécialement conçus pour la scène qui s'attache à un pied de microphone, finalement.
Oui, c'est une des mesures là, des risques qu'il propose dans sa pétition que vous pouvez trouver là, sur le site change.org. Il y a d'autres mesures là, qui sont détaillées là-dedans. Là, je ne rentrerai pas dans toutes les explications, mais on parle notamment là, d'aménagement des salles. Patrick Jacobson, qui lui-même est un musicien, affirme qu'au-delà là, des considérations financières, parce qu'évidemment, il a perdu un revenu en ne pouvant pas se produire sur scène, après un an, il commence surtout à avoir vraiment hâte de retrouver son public.
It's been hard. I mean, luckily, I did have one opportunity in the middle of the summer last year. I played at a festival on 47th Street.
Mm-hmm.
So I did have that one opportunity to play there, and that was fantastic. It was great to have that avenue and connect with people, you know, at a point where it had been a few months. And then since then, there haven't been any other opportunities. So it's been a long dry spell since, and it's almost made it harder having that one moment in the middle there where there was that little bit of light. It's like, oh, it's going to come back. It's going to be back. And then there's been nothing. And I think a big frustration for me is just that last year when they were talking about the different phases that we were going to go through, that we had phase one, and then almost immediately we advanced to phase two a few weeks later. And phase three, I seem to remember it was scheduled for June last year, and it just never happened.
Alors, à nouveau, le musicien Patrick Jacobson, on sent bien sa peine de ne pas pouvoir communiquer avec son public. Il affirme avoir pu présenter un spectacle en extérieur cet été, mais c'était sa seule représentation depuis mars 2020. Il indique s'être senti frustré que l'on ne dépasse jamais la phase 2 du plan de déconfinement des territoires du Nord-Ouest. Baptiste, qu'est-ce qu'en dit la santé publique?
Bon, pour l'instant, là, on n'a pas là, de réaction officielle à la proposition de M. Jacobson de la part de la santé publique. On sait que dans le passé, la santé publique s'était montrée ouverte à écouter les doléances du public, un peu moins à ce que ces doléances-là influencent ses choix. Mais M. Jacobson, lui, précise qu'avant là, de se lancer dans une pétition, il a d'abord contacté l'administration de la santé publique pour tenter là, de présenter un spectacle de musique où il y aurait du chant. Et bon, les mesures qu'il met dans sa pétition, il les a suggéré. Alors, j'imagine qu'on va avoir une réponse éventuellement de cette demande-là. Cependant, ce qu'on comprend, c'est que dans l'éventualité d'une réponse favorable, ben, puisqu'il n'est pas lui-même là, le propriétaire d'une salle qui pourrait mettre en place des installations de façon permanente, ben, pour un musicien comme lui, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, on refasse une demande et on redemande un accommodement, ce qui ajoute une lourdeur administrative à tout cela.
Merci beaucoup, Baptiste.
Je vous en prie, Thomas.
Plusieurs fêtes qui ont habituellement lieu en mars sont annulées cette année en raison de la pandémie, évidemment. On pense entre autres au Long John Jamboree, au Fort McPherson Peel River Jamboree, aussi au Wood Buffalo Frolics. Il reste néanmoins des fêtes un peu partout au territoire du Nord-Ouest en mars et en avril. Denis Laure nous dresse un tableau des activités. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Donc d'abord, Denis, à la réserve de Hay River, le carnaval Kamba est déjà commencé depuis le 1er mars.
Oui, c'est organisé par la Première Nation de Katlodichi. Ça se poursuit jusqu'à dimanche inclusivement. À 17h vendredi, on peut assister au couronnement de la reine suivi d'une parade. Le samedi après, l'assistance a droit à une course de traîneau à chien et à un poker derby. Et puis le lendemain, il y a une seconde course de traîneau à chien qui commence à midi et qui est suivie d'un bingo à 14h qui va être diffusé par CKLB. Et puis à Fort Prove, il y a le Detio Bison Jamboree qui prend son envol le 5 mars avec une course de raquettes qui débute à 14h au terrain de balle. Toujours au même site, le 17 mars, il y a une compétition de thé bouillant. Le premier prix va à celui qui fait un feu et qui fait bouillir son thé le plus vite possible. Je ne sais pas s'il faut aussi couper le bois, mais enfin, vous avez une indication, apportez votre hache.
Oui.
Après ça, le 24, ça se poursuit comme tout le mois pas mal. Hein. Il y a une danse communautaire le 24 qui est un des seuls événements live avec le thé et la course. Et puis, il y a une compétition de gigue en ligne le 26 et le 31. En ligne, oui, c'est ça. Je pense que ça va être avec des caméras. Je ne sais pas si c'est diffusé en direct sur Facebook. Et puis, donc, ça se termine le 31 mars avec une compétition de musique en ligne. Je me suis entretenu avec un des organisateurs, Tom, qui m'a expliqué qu'il y aurait un jury de bénévoles qui jugerait sur Facebook les prestations musicales que les gens vont faire de chez eux. Ça peut être du tam-tam, une interprétation de chansons, etc. C'est ouvert, c'est assez libre et élastique.
Donc, interprétation devant webcam. La Tebacha Dog Mushers Association, Denis, a réussi à maintenir un circuit de course de chiens de traîneau. Il y a eu des épreuves à Fort Providence, à Yellowknife et à Hay River. Ça se poursuit les 13 et 14 mars à Fort Smith.
Effectivement, j'ai parlé à un des organisateurs, Shelto Douglas, et il était très enthousiaste de présenter pour la première fois depuis plusieurs années des courses de 20 000. En kilomètres, ça fait, je ne sais pas, 38 peut-être? 36?
Je ne suis pas bon en mathématiques, bon. Denis. 20 000.
OK. 20 000, donc. Et ça, c'est pour les attelages de 10 chiens. Il y a aussi des courses de 8 000 pour les attelages de 6 chiens. La course va avoir lieu le long de l'autoroute numéro 5. Et il y a 10 000 $ de prix qui sont distribués dans la catégorie 20 000 et 2 000 $ dans la catégorie des 8 000 en termes de distance. Dans le contexte de la pandémie, contrairement aux années précédentes, la course est réservée aux mushers ténois.
D'accord. Et Denis, pour terminer, votre aperçu des festivités, parlez-nous donc du Toktoyaktuk Beluga Jamboree.
C'est du 16 au 19 avril, en plus des traditionnelles danses au tambour, du bingo, des courses de chiens. Ce qui est spécial dans cet événement-là, c'est des courses de motoneige de 100 000, ça, on parle vraiment de 1000 et le nombre de kilomètres, pour les femmes et de 150 000 pour les hommes. Ensuite, il va y avoir du 9 au 12 avril, il y a le Inuvik Muskrat Jamboree, mais la programmation n'est pas encore montée au moment où on se parle.
D'accord. Évidemment, tous les événements doivent se faire avec l'approbation du Bureau de la santé publique des territoires du Nord-Ouest. Tout un défi, on se l'imagine.
Oui. Le 24 février, la médecin hygiéniste en chef, Camille Candola, elle affirmait qu'elle avait travaillé avec les organisateurs de Canva pour leur plan d'exposition. Elle disait que l'événement correspondait vraiment à leurs exigences. Elle a ajouté que c'est un bon modèle qui pourrait être partagé avec d'autres organisations, tout en clarifiant le fait que chaque région et chaque activité ont un peu ses particularités. Si vous voulez, on écoute comment ça va se passer à Fort Smith avec Shelto Douglas qui va nous parler des courses de chiens.
Certain rules we've got to follow. We've got to make sure that mushers have their own handlers, to wear masks. They have to, you know, have a safe distance, and they're not to mingle with one another. We expect the spectators that they could come and look at the dogs and stuff, but they got to sit in their vehicle. They can watch the race from their vehicle, so it's right along the highway. It's race-friendly.
Alors, Shelto Douglas de l'association Tebacha de Mushers qui explique que règles sanitaires obligent les mushers, là, les compétiteurs, doivent avoir leur propre dresseur, porter un masque, évidemment, maintenir une distance de 6 pieds et ne pas socialiser. Enfin, c'est ce que dit M. Douglas, qui ajoute qu'on s'attend à la même chose des spectateurs. Les spectateurs peuvent venir voir les chiens, mais ils doivent regarder la course dans leur véhicule. Merci, Denis, pour cet aperçu des activités. C'est important, l'hiver a été dur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bienvenue, ça me fait plaisir et on se revoit probablement la semaine prochaine. Salut Thomas, salut à tout le monde.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.